Le 21-12-32. Prière de remettre cette lettre. Merci, Norbert. Docteur, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas perdu de temps. J'ai ruminé mon affaire en chemin de fer et le soir, en allant chercher des oies chez un vieux ami paysan, devant la misère des pauvres bâtiments qui tiennent debout, Dieu sait comment, je me suis fabriqué une ferme modèle. Il faut dire aussi que, depuis longtemps, j'ai mon affaire dans la tête. Seulement, je n'ai que la veillée pour travailler et je ne suis pas toujours tranquille. Enfin, si Corbusier est satisfait de mes petits papiers, j'en serai heureux. J'avais peur d'être obligé de faire trop long. Et puis, voulez-vous que je vous dise, ce n'est pas tous les jours qu'on travaille pour Corbusier. Et j'ai bien peur qu'il ne sourie de mon pauvre travail. Maintenant, j'aurai besoin, pour ma région, d'une carte économique précise et actuelle, Sarthe-Mayenne-Bretagne, avec une nomenclature complète des industries et productions. Je n'ai pu trouver en librairie qu'une monographie à l'usage des touristes. C'est malheureux tout de même. Si vous pouviez me faire avoir un ouvrage sérieux, cela m'aiderait énormément pour le plan. Sans documents, je ne puis rien faire. D'autre part, je voudrais un plan régional d'organisation politique, un tableau précis des institutions régionales, quoi. Il y a une chose qui me tracasse. Comment financerons-nous le plan ? De Pierrefeu devrait bien éclaircir la situation là-dessus. Je sais bien que nous opérerons par paliers, mais l'énormité des besoins financiers me laisse perplexe. Il me restera à vous remercier infiniment pour votre hospitalité. Fraternellement à tous, Norbert. Toutes mes études sont écrites, ou à peu près, à l'encre à polycopie. À passer à Le Corbusier. Mon village. Avez-vous vu mon village, sur la grande route, entre deux plateaux cultivés, au fond d'une cuvette, arrosée par trois rivières, dont la Sarthe, il est charmant. Pour les amateurs de vieilleries. Vieille église, vieille maison. Des maisons ? Non, des sous, comme on dit en patois manciaux. Sous, toit à port. Une exception, et encore, le groupe scolaire. L'hiver dernier, l'inondation a failli tourner à la catastrophe. Le village est ruiné par l'eau, la moitié du bourg baigne dans l'eau l'hiver. Il faut le reconstruire. Comment ? Faut-il déplacer la grande route de Caen à Bordeaux ? Il faut une solution avant peu. Les maisons sont pourries. La route est dangereuse pour les hommes. Déplaçons le village pour le tirer de l'eau et puis faisons une route aérienne en béton pour supprimer la cuvette. Si je dis ça au maire, il va me faire arrêter pour folie. Et pourtant, il est grand temps. L'autre jour, à quelques kilomètres d'ici, on dîne dans une ferme, la poutre vermoulue casse. 3 morts et 1 blessé grave. Laisserons-nous rebâtir ancien style ? Laisserons-nous refaire des sous ? Non, il nous faut un village neuf et pas un amas de boîtes en carton à bon marché. Alors, quel est l'architecte qui bâtira mon village ? On demande des bâtisseurs. Piacé, le 2 mars 1933. Transmission par Winter. Monsieur Le Corbusier, architecte à Paris. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date du 23 à bord du La Mauricière. L'étude que vous avez lue dans le bulletin plan de février a été écrite en double. Une pour vous, qui figure à mon dossier chez Winter, et celle que Philippe a fait imprimer. Philippe m'avait demandé des études précises à paraître chaque mois à plan. Winter approuve ce projet à cause de la propagande. Et d'autre part, je suis liée d'une forte amitié avec Philippe et sa femme. Voilà l'explication de cette parution qui vous a peut-être étonnée. Je suis tout à votre disposition pour vous aider à mettre au point la question de l'urbanisme rural. Si vous voyez des lacunes dans mes études, dites-le-moi. Je vis à la campagne. Et c'est l'ensemble des observations notées au cours de mon travail dans les fermes et dans les villages qui me permettent de percevoir avec netteté les solutions idéales à la crise actuelle. Et c'est aussi la raison que je me fais traiter de communiste par les braves gens des campagnes, qui sont absolument incapables de se faire une idée de la vie de l'époque scientifique que nous subissons. Lagardille est absolument de mon avis. Oui, cette question de ruralisme est la question fondamentale de l'heure. Nous n'avons pas le droit de nous tromper. C'est pourquoi, un jour, je vous disais que vous n'aviez pas le droit d'abandonner les campagnes à leur triste sort. Le champ, c'est la base de la vie matérielle. C'est sur cette base que s'est construite jusqu'à présent, dans un désordre sans nom, la fausse civilisation bourgeoise. Les serfs campagnards étaient tenus de nourrir le monde, confondus pêle-mêle avec leurs bestiaux, les uns exploitant les autres pour le plus grand profit de la bourgeoisie, propriétaire de la terre et spéculant sur les denrées produites par la paysannerie à moitié sauvage et savamment maintenue dans la crasse et l'ignorance par la dite bourgeoisie. Aujourd'hui, les temps sont changés. La bourgeoisie voit sa puissance lui échapper. La barbarie des champs a risqué un moment de dépasser en puissance le machiavélisme du bourgeois citadin. C'est à ce moment précis que toute cette construction anarchique qui n'était pas vraiment fondée sur une base humaine, s'écroule. C'est la faillite du libéralisme bourgeois et l'écrasement final de la masse paysanne qui s'émancipait faussement, parce qu'au lieu d'apporter la santé foncière de la terre, elle s'était livrée au veau d'or de la bourgeoisie, méconnaissance des lois fonctionnelles naturelles. Voilà la colossale erreur des temps modernes. Solution ? Rebâtir sur les ruines à partir de zéro. Premièrement, l'urbanisme rural, source de civilisation adaptée à l'époque machiniste, pendant exact et complémentaire, et qui plus est, base matérielle de la société. Deuxièmement, urbanisme citadin, établi en fonction exacte des besoins ruraux d'une part, et de l'autre, retour spirituel à la terre des biens humains qui sont le machinisme libérateur et la culture qui est la civilisation tout court. Cité radieuse, village radieux. Voilà la norme idéale de la civilisation qui vient. Chiffre exact, expérience par l'esprit pur. Liaison parfaite depuis l'engrais organique jusqu'à l'engrais de la culture. C'est donc bien un tout. Une synthèse complète à effectuer. C'est le plan total. D'ailleurs, je vais publier dans le prochain numéro de Prélude un plan d'organisation économique qui pourra utilement vous servir. De plus, je vous ferai parvenir un plan cadastral de la commune de Piacé, c'est-à-dire un document exact. Ce plan a été refait ce printemps. Il est bien entendu que nous construisons le village radieux conforme à la vie radieuse, c'est-à-dire en conformité avec la nouvelle civilisation que nous nous efforçons de susciter et de dégager, avec, comme principe directeur, minimum de travail vital, maximum de loisirs. En fait, création d'un standard de vie hautement humain au point de vue spirituel et matériel. Nous ne faisons pas du provisoire, mais nous signons une époque. Une nouvelle renaissance à l'aube de l'époque machiniste. Donc, du durable dans le temps et dans l'espace. Nous créons l'outil répondant bien à sa fonction, nourrir les hommes en faisant œuvre féconde de civilisation au champ. Vous voudrez donc bien, mon cher ami, patienter un peu. D'une part, j'ai un gros travail à faire pour Prélude, le 8 courant au plus tard, et pas encore une ligne de brouillon. D'autre part, il faut que je recherche sur place et avec exactitude tout le dossier de renseignement que vous me demandez, et ce n'est pas rien. Maintenant, pour les surfaces ou volumes d'encombrement, vous auriez tout avantage à consulter un ouvrage d'agriculture moderne. Ainsi, pour la basse-cour volaille, je puis vous donner des plans exacts que je possède. Vous ne vous imaginez pas la somme de connaissances agricoles qu'il faut posséder ou acquérir pour faire ce que nous voulons mettre au point. Prenez donc tout votre temps. Étudiez la question du village à fond. Pendant ce temps, je rassemble les renseignements sur la ferme et les données concernant le village. Bien cordialement vôtre et enchanté de collaborer avec vous, Norbert Bézard, à Piacé, Sarthe. Le 25 février 1937. Monsieur Picard, 42 rue Paquier, Paris 8e. Cher ami, je vous signale en vitesse qu'après des entrevues avec Bézard, Winter et Bertrand, nous avons décidé la mise sur pied d'un livre sur la réorganisation agraire signé de nos quatre noms. Œuvre que Plomb avait acceptée en principe, à ma demande, il y a un mois environ. Je vais maintenant remettre le manuscrit à Plomb et je tenais à vous avertir de cet événement qui pourrait être si heureux dans ses conséquences. Cordialement à vous, Le Corbusier. Extrait du manuscrit. La ferme radieuse, le centre coopératif. Lacoste est dans son sillon, il sème. Ils sont tous là. Vous les voyez, Jean-Pierre, Albert, Louis, chacun dans son champ. La récolte se prépare et dans une année, mon champ sera comme celui à gauche, mis au repos. Les blés d'hiver se sèment 15 jours avant et 15 jours après la Toussaint. C'est aujourd'hui le 5 novembre. Si ce matin, le ciel est propice, adorable, l'hiver n'en viendra pas moins avec sa longue attente. Chaque chose doit être faite à son heure, et il ne faut pas manquer l'heure. C'est à la moisson d'août qu'on verra si fut fait en novembre ce qui devait être fait. Je puis parler aujourd'hui ici de la ferme radieuse et du centre coopératif, s'il faut qu'un jour leur bâtiment se dresse dans les paysages, ayant, par un programme de travail immense, donner du pain aux ouvriers des industries, à ces ouvriers bras ballants, devant les portes des usines fermées, depuis qu'on a cessé de fabriquer des canons. Je suis né dans les montagnes, à 1000 mètres d'altitude, mais non pas dans une maison de ferme. C'est une ville industrieuse, édifiée sur un artisanat séculaire, importé par pur hasard. Ses hauteurs sévères de pâturages et de forêts de sapins, séparées des terres, habitées à l'est par une longue crête de montagne, n'avaient aucune raison naturelle d'accueillir des hommes ni une ville. C'est précisément pour cela qu'elles devinrent la terre d'asile des proscrits religieux et politiques, révolutionnaires divers, Jean Doc et Doyle et mauvaises têtes de Paris. Aux marches de l'est, dans un repli entre les monts, dans cette vallée du fond, tous sont venus de l'Ouest. Et ils apportèrent avec eux leur architecture du Languedoc d'abord, de Bourgogne ensuite, et des contacts artisanaux permanents avec Paris. Un prince hospitalier les y laissait coloniser, les ayant libérés d'impôts. La neige atteint plus d'un mètre, les hivers sont interminables. Aussi, vit-on d'un coup, le jour où un maréchal Ferrand fabriqua, l'ayant copié sur celle d'un roulier, la première montre, s'étaler derrière les fenêtres géminées des fermes, des établis de fine mécanique. Et les plus prestigieuses pièces d'horlogerie, qui sont dans les trésors des musées, naquirent de ces hivers industrieux. Je suis donc un homme de la ville et pas un campagnard. Mais mon père, tous les dimanches et par tous les temps, nous entraînait sur le sommet des monts ou dans le profond sillon creusé par la rivière. J'ai vécu dans la nature, aimé la nature, étudié ses gestes, ses attitudes et ses phénomènes, dessiné ses détails intimes dans les rochers, dans les champs, dans les grandes forêts, j'ai appris à ouvrir les yeux et à comprendre les règles. Le sort m'envoya donc dans les villes, dans une grande part des villes du monde. En 1910 déjà, poussé par un instinct d'évasion, je parcourus presque à pied pendant 7 mois l'Orient d'Europe. Et n'ayant pu jusqu'alors découvrir l'architecture dans l'enseignement des écoles, je le trouvais dans les terres, en tout abri d'hommes, de choses ou de pensées, dans les villages et les fermes, comme aussi les temples des acropoles. L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes sous la lumière. Oui, mais l'architecture, c'est encore construire dans l'économie et avec les matériaux les meilleurs et les moyens d'exécution les plus sûrs, les vaisseaux accueillant des fonctions précises. Si l'architecture est haut phénomène plastique, elle est aussi biologie la plus pure. Je m'attachais à la vie des villes et commençais d'y voir clair. Dès 1921, j'eus l'intuition que les villes étaient trop grandes et que si grandes, elles ne flattaient que les conseillers municipaux. J'observais qu'une grande part de leurs habitants s'y étiolaient, étant venus brûler leurs illusions comme le papillon se brûle les ailes à la lampe. Mais que quelques raisons essentielles empêchaient d'en sortir ceux qui s'y étaient ensevelis. Un orgueil de ne pas avouer sa défaite, un goût nouvellement acquis de sociabilité, un contact pris avec certaines délicatesses du confort, c'était tout de même des gens perdus. Cette conclusion dès lors, pour urbaniser les villes de la civilisation machiniste, il faut classer leur population et éliminer les parasites, sauver les échoués. Qui ? Une part de ces gars de la terre qui y sont venus. Par quels moyens les arracher au faubourg ? Hélas, ils refuseront de retourner à la terre, eux, leurs femmes et leurs gosses. Alors, cette déduction. Si l'on veut vraiment urbaniser les villes, il faut aménager les campagnes. Peu après 1930, nous avions mis debout, après 10 années de recherche, un statut des villes de la civilisation machiniste, la ville radieuse, qui nous semble capable d'apporter aux hommes les joies essentielles. D'où vient ce nom de ville radieuse ? De l'éloquence des mots d'abord, ensuite d'une astucieuse intention polémique. Comme on nous avait écrasé dans l'affaire du Palais des Nations à Genève, et cela parce que nous parlions pureté, ponctualité, convenance, économie, esprit nouveau, tout en proclamant la splendeur possible du jeu correct, savant et magnifique des formes sous la lumière, et parce qu'encore nous discernions que l'architecture de notre époque se devait d'employer les moyens de l'époque, la science du calcul, l'exactitude des machines, et qu'ainsi nous ouvrions la première porte sur un immense programme dévolu à l'industrie, on nous avait accusés d'être anti-humains, anti-nature, d'être des rationalistes, des fonctionnalistes, des ingénieurs et de vouloir couvrir le pays de tristes casernes. Notre ville s'appelle la ville radieuse. Vous prétendez le contraire ? Alors, prouvez-le et regardez ce qu'il y a dedans. Analysez, comprenez. Vous devrez donc examiner avant de condamner. Vous verrez alors que dans cette ville, la vie sera radieuse. Ce mot « radieux » est notre protecteur et notre héros. Un jour, à Paris, lors de l'une des réunions du groupe Prélude, je rencontrai Norbert Bézard, ouvrier agricole. « Corbusier, me dit-il, vous avez le devoir de mettre debout la ferme radieuse, juste et nécessaire pendant de la ville radieuse. Vous n'êtes pas paysan ? Nous vous montrerons comment nous sommes. Vous ne connaissez pas le travail de la terre. Vous apprendrez à savoir de quoi il est fait. » C'était une tâche angoissante, mais magnifique. Bézard établit son dossier, cite ses dossiers coutumes et techniques du paysan des temps nouveaux. Des quantités, des distances, des nomenclatures d'appareils et de produits. Une description des travaux quotidiens au cours des saisons. Un programme rigoureux. Dans une salle de théâtre au Mont, Bézard amena ses paysans. J'exposais en croquis fait au tableau noir et en projection lumineuse les plans de la ferme radieuse. En sortant, un paysan de 50 ans me dit « Si même rien de cela n'était possible, du moins avez-vous mis dans nos cœurs l'espoir. » C'était en 1933. Cela fait, Bézard déclara, et maintenant, il faut faire les plans du village coopératif. Et puis encore, il faudra faire les plans de la région et de la capitale de la région. Ici, la capitale était Le Mans, car Bézard est du Bocage et le groupe de ses paysans est de la Sarthe. Les plans du village coopératif furent faits et montrés au pavillon des temps nouveaux à l'Exposition internationale de Paris en 1937. Plus de 5 années s'étaient écoulées de collaboration étroite avec les paysans. La grande industrie de France n'a plus de programme de fabrication. Un bon programme sain, utile, fécond. Car elle a cessé de fabriquer des canons. Elle est donc vacante, disponible, avec sa maîtrise, ses ouvriers, ses machines, ses ateliers, son administration, ses techniques. Le programme de l'aménagement des campagnes s'offre à elle. Les fermes et centres coopératifs, clés de la réorganisation agraire et cause déterminante de la possibilité d'urbaniser les grandes villes. La ferme radieuse et les éléments constitutifs du centre coopératif ont donc été conçus pour être construits dans les ateliers de la grande industrie. Leurs éléments obéissent à des standards et peuvent entrer en composition diversifiée. Le standard permet l'exécution économe, perfectionnée de qualité. Ici sont les temps nouveaux, et pas ailleurs. Norbert Bézard est à l'origine de nos études de réforme agraire. Il a 45 ans, c'est un ouvrier agricole. Il ne fut jamais que cela. Toute sa lignée est paysanne. Il est dru, vif, aigu, éclatant de santé, piquant des rages contre les imbécilités de l'existence, montrant ses crocs menus, aigus lorsqu'il rit ou crie. Il a tout fait à la campagne, les travaux des terres et du potager, la coupe des bois, la boulangerie, les abeilles, la greffe, les soins au bétail et à la basse-cour, le secrétariat à la commune. Il est fossoyeur et met les morts dans leur linceul. Il est facteur aujourd'hui. Sur un vélo, sous la pluie, pour gagner de quoi vivre, parce qu'il est isolé dans son bocage, perdu dans sa forêt domaniale, inutilisé, sans mandat. L'occasion, cette fortune qu'on saisit aux cheveux, ouvre ainsi dans la vie des portes sur des horizons non connus. On entre, on regarde, on écoute, on découvre au fil des recherches la raison des choses. Ainsi, l'homme des villes ignorait tout de la vie de la terre. Ainsi, le voici découvrant une harmonie déroulée entre des sites, des coutumes et des moyens. Au cours des années, il aura saisi toutes les occasions d'observation. Ainsi peut-il s'insérer dans ce phénomène entier et, issu, lui, d'une autre formation, peut-il apporter sa collaboration en certaines choses qui sont celles de son métier? Un métier peut conduire à penser. Le métier d'architecte et d'urbaniste conduit à penser celui qui s'y efforce. Et aujourd'hui, sa pensée orientée vers les temps nouveaux s'attache à quelque chose qui vaut la peine. Elle s'attache à l'homme. Aux heures de grands bouleversements, il n'est qu'un moyen de salut: reconsidérer l'homme et son milieu et les mettre, l'un et l'autre, en harmonie. Le milieu des hommes peut varier, être parfois révolutionné. Il l'est aujourd'hui, totalement par le machinisme. La campagne, rendue radieuse, attirante, active, intense, la campagne devenue un objet d'envie. Oui, alors les échoués des villes reviendront à la terre. Et les villes, grands centres pourris d'une civilisation déchue, se prendront elles aussi à revivre. Saint-Rigomère-des-Bois, ce 4 décembre 39. Mon cher Corbu, je n'ai pas encore reçu de réponse à mes lettres. Pourtant, je m'exprime clairement, je pense. Il s'agit pour moi et pour ma famille de manger dans l'immédiat. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas comprendre à Paris, eh bien vous allez comprendre. Si dans un délai de 3 fois 24 heures, à dater d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, vous voudrez bien dire à Jean Giraudoux et prendre note vous-même de ne pas compter sur ma collaboration. Je serai facteur au bureau de Sainte-Paterne et c'est tout. Mais au moins, je saurai ce que j'ai à faire. Je me fous des honneurs et de ceux qui les distribuent et sais me contenter de peu. Mais je me refuse à donner le meilleur de moi-même dans des entreprises qui ne vont nulle part. J'aime mieux converser avec mes paysans et les chênes de la forêt de Persaigne. Bien cordialement vôtre, Bézard. Deuxième partie. Norbert Bézard, céramiste d'art. Paris, le 28 juin 52. Mon cher Corbu, à partir de demain, voici ma nouvelle adresse. Chez Monsieur Prugnard, 2 rue David Lédé à Bondy, Seine, à titre provisoire, je l'espère. Par une agence sérieuse, nous avons connaissance de quelque chose qui serait parfait pour nous, à tout point de vue. Une reprise de logement quai de la Tournelle, occupée par un antiquaire qui liquide son commerce. Il y a boutique et petit atelier derrière et appartement au-dessus. Droit au bail, 700 000 francs. Quelqu'un ayant de l'argent à placer ne pourrait-il acquérir ce droit au bail et me louer le tout à un taux qui l'intéresserait? Ça vaudrait quand même mieux que l'emprunt piné. Là, je pourrais faire beaucoup de choses. Produire et exposer. À l'occasion, louer la boutique à des artistes pour exposer en galerie. Sous ce rapport, l'emplacement est magnifique. En plein quartier Notre-Dame, sur quai face à l'île Saint-Louis. Suzanne compte être titularisée en octobre. Cela nous fait 50 000 francs d'assurés par mois, soit 20 000 francs de plus qu'en ce moment. Avec ma vente sur place, inconnue, et mes commandes, je puis racheter en un an. Ma carte d'artisan me permet beaucoup de choses. Cela paraît gros, bien sûr, mais je constate, c'est un fait, que les capitaux fuient les honnêtes gens. Bernard Palissy avait brûlé ses meubles, paraît-il. Moi, j'ai brûlé mes économies pour apprendre. Je n'ai plus d'atout autre que mon métier de céramiste. Je suis à un point crucial, au-delà duquel c'est la fin lamentable, car je ne resterai pas à la charge de Suzanne. Le drame est que Suzanne ne veut pas quitter Paris avant d'être nommée. Que d'autre part, pour mon métier, j'ai le cuiseur et les matières premières à porter. Donnez-moi votre opinion là-dessus. Je ne cesse de réfléchir et de retourner le problème. Si je pouvais retourner à l'usine, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est fini de ce côté-là. Je vais encore essayer d'aboutir jusqu'à l'ultime possibilité. J'ai tellement eu de déceptions et de coups durs qu'un de plus ou de moins ne ferait qu'ajouter une unité. Mais cette fois-ci, le tonus serait brisé, sans rémission. Si vous voyez Lucien Hervé, dites-lui que sa commande sera exécutée, même si je dois la terminer dans une chambre d'hôtel. À vous lire, Norbert Bézard. Paris, le 30 juin 1952. Mon cher Bézard, reçu votre lettre du 28 juin. C'est entièrement loufoque. Je me suis occupé de vous d'une manière très importante et suivie depuis ce matin, sans arrêt. Nous trouverons certainement quelque chose pour vous, c'est-à-dire de quoi faire de la céramique chez vous et non pas de vendre en boutique en payant des pas de porte qui n'ont rien de commun avec le problème et dont vous ne trouverez jamais le prêt. J'ai trouvé des aides extrêmement émouvantes pour vous auprès de hautes personnalités. Ne jouez pas au Bernard Palissy. Ne brûlez pas les meubles, ne brûlez rien du tout. Il fait assez chaud comme cela. Je pense vous apporter confirmation de la commande Matarazzo demain. Amicalement, Le Corbusier. Bondy, ce 3 août 1952. Mon cher Corbu, j'ai bien reçu et touché le chèque. Merci. Nous voilà sauvés. Je travaille avec amour à nos assiettes. J'aurai bientôt fini mon estampage. J'ai deux grands plats encore à faire et ce n'est pas rien. J'aurais voulu livrer au 1er septembre, mais ce sera impossible. D'abord le cuiseur qui part le 10 pour la Bretagne et ne rentre que le 30. Et puis, j'ai encore tous les maillages et les rebuts à refaire, inévitablement. Enfin, cela se présente bien et j'ai tout bien fait de croire que si mon œuvre ne sera pas un chef-d'œuvre, elle sera tout de même quelque chose à ma manière, c'est-à-dire du hors-série, hors-mode, bien torché et agréable au goût pour les connaisseurs. J'ai mis en exposition Quai de la Tournelle 5 sujets poissons, derniers sortis, qui sont bien 5 petites merveilles de céramique foie de Bézard. Tout le monde s'arrête à la vitrine pour s'en mettre plein les yeux d'après le père Perrault, artiste en pêche, qui a mis une vitrine à ma disposition. Je dois vous dire qu'il n'y perd rien pour sa boutique. Je vous souhaite du soleil, le repos bien gagné, de la bouillabaisse, comme ça. Et pourquoi, Corbu, n'essayeriez-vous pas d'accrocher quelques bestiaux à un hameçon bien bouetté? Goûtez et vous continuerez. Bien des choses à Yvonne et à votre sympathique hôtelier. Au soleil, à la grande bleue et tout, Bézard. Paris, le 8 octobre 1952. Mon cher Bézard, j'ai fait déballer votre faïence et je suis tout à fait bien impressionné, très content. Certaines de vos choses sont magnifiques, deux des grands plats en particulier, les poissons. Toutes ces créations, poissons, papillons, oiseaux, sont saines, forte et vraie. C'est cet esprit de vérité qui est valable par-dessus tout. Il y a de plus un accompagnement d'ambiance naturelle par la couleur qui est très important. Il y a aussi la série Zodiac qui est très bien. Enfin, il y a la série faite par Suzanne qui ne peut pas être mélangée à votre série par suite des différences essentielles. Mais cette série se défend parfaitement. Elle est très jolie dès qu'elle est isolée et qu'elle rend compte comme une œuvre individuelle féminine. Conseil, ne mettez jamais dans la même caisse vos œuvres et celles de votre femme. J'étais très anxieux de déballer votre caisse. Je suis très content. Je vais écrire à Madame Matarazzo une lettre dont je vous enverrai copie. Je ne voulais pas retarder d'un jour celle-ci pour vous dire toute ma satisfaction. Amicalement à vous, Le Corbusier. Paris, le 25 mars 1953. Mon cher Emery, je vous avais écrit une lettre très impolie et comminatoire au sujet des céramiques de Bézard. Le brave type fait des merveilles, et j'ai juré, mes grands dieux, que mes amis, favorisés par l'existence, lui passeraient des commandes qui permettront à cet homme qui s'est dévoué dans la campagne avant d'être dans un grenier parisien, de pouvoir subsister avec sa femme. Ces poteries sont des chefs-d'œuvre. Tous mes amis en ont commandé et sont ravis. Soyez gentils, Emery. Amicalement à vous, Le Corbusier. Paris, le 21 avril 1953. Mon cher Bézard, inclus un chèque de 20 000 francs pour payer vos impôts. Ce n'est pas la peine de vous battre contre les forteresses inexpugnables. Ce sera à valoir sur la commande Friedrich. Mais en attendant, on vous fichera la paix. Amicalement à vous deux, Le Corbusier. Montmartre, ce 22 avril 1953. Mon cher Corbu, c'est demain au calendrier la Saint-Georges. Or, il y a au vieux cher pays de Sarthe un vieux dicton absolument juste et prouvé qui dit « À la Saint-Georges, bonhomme, fais ton orge ». Nos vieux paysans malins et forts d'expérience nous dictent la voie. Merci, Corbu, pour votre geste. Je sais de quoi il retourne. Il reste que l'État, en la personne de ses finances, est bête et malfaisant. Je vais payer. Bon, c'est malhonnête de sa part, et c'est tout. Un tout anonyme. Mais en compensation, je déclarerai à l'État, dame, c'est logique, ce que je voudrais bien. Or, mon cher ami Corbu, l'État m'a mis au rancard comme une vieille bagnole, après m'avoir crevé. Et encore, j'ai eu la chuna de me sortir des massacres de 1914. Parce que cela, Corbu, c'est un fait oublié. Le percepteur, c'est un fonctionnaire. Entendu. La bêtise est dans l'État. C'est entendu. Mais la bêtise est devenue l'État, ce qui est plus grave. Pour payer l'État, je vais, j'ai déjà fait, deux beaux plats et d'autres jolies choses et bien faites. Et je vais m'enferrer dans les pots. Seulement là, dans mon domaine, défense de mon comté. L'État n'est même pas capable de respecter le statut de ses serviteurs. L'État, voleur et inhumain, ne mérite pas d'être servi ni honoré. Corbu, mon bon vieux et cher Corbu, je refuse par avance tout ce qui pourrait m'être accordé par l'État. Mes décorations gagnées avec ma jeunesse et mon sang, je les fous en l'air. Et vive la céramique et les pots bien faits. Et au plaisir de vous voir à Montmartre. Bézard. Ce 12 mars 1954. Mon cher Corbu, je sais que vous êtes rentré, mais j'hésite à aller jusqu'à Nungesser. J'ai du mal à tenir le coup. J'ai définitivement le cœur en morceaux. Plus rien à faire. Je n'ai plus de travail et plus rien en vue. J'ai une offre d'associateur avec quelques millions. Qu'en voulez-vous que j'en fasse? C'est idiot. J'ai fait de belles choses, des émaux incomparables, sans me vanter. La commande pour Sao Paulo est en mer. Du travail de musée. Pas de commande, rien en vue. J'ai de belles choses ici dans mes osiers. J'arrête, faute de place pour mes pièces et par manque de fonds d'investissement. Je me mets à la peinture à l'huile. Naturellement, des poissons. Je crois qu'ils ne sont pas si mal que ça. Évidemment, cela n'a rien à voir avec ce que l'on voit à Paris. Mais enfin, c'est des poissons vus par le père Bézard, pêcheur invétéré, et ce n'est pas ordinaire. Oh, ce n'est pas léché, académique, mais c'est des poissons, tels que j'en ai pris à l'hameçon, des bourriches. Je n'aurais jamais cru que l'huile, c'était aussi souple et aussi facile. À côté des émaux, c'est de la foutaise. Au plaisir de vous rencontrer, et bonjour à Yvonne. Norbert Bézard. Notre bon ami le père couturier est parti. Cela m'a donné un choc. Il y a des bris difficiles à réparer. Montmartre, ce 16 juin 1954. Mon cher Corbu, deux mots en vitesse, j'ai commencé ma fabrication pour Ronchamp de façon à ne pas être pris au dépourvu. Point de vue art, incontestablement, le dessin a de la gueule. C'est fin et très puissant. Quant aux matrices, c'est un travail difficile et délicat. Je m'oblige de retoucher à la pointe certains traits que l'on verrait mal après cuisson. Soyez tranquille, je travaille au 1/100 de millimètre, comme qui dirait au comparateur. Je me comprends, c'est de la céramique. Bon, c'est un métier. Je sais ce que c'est et par quel bout cela se prend. Maintenant, pour les émaux, je voudrais bien avoir une liberté totale. Parce que tout de même, sur les schémas, on me colle des couleurs de peinture. À l'huile, je suis un peu barbouilleur, moi aussi pour mon malheur, qui n'ont rien à voir avec les couleurs des mots. Corbu, j'ai de la couleur et j'ai des couleurs. C'est difficile, entendu, mais on y arrive. Je ne veux pas faire du commercial, de la saloperie au kilo. Il n'y aura jamais deux pièces semblables, mais qu'on me laisse faire. Parce que tout de même, pour vendre, il faut que cela plaise. Et Dieu sait s'il peut y avoir des couillons dans une affaire de ce genre. Des pèlerins, tu parles, les mêmes qui vont dans les boutiques attirés par le clinquant. Corbu, je veux faire du Corbu Bézard. On se comprend bien, nous deux. Et c'est l'essentiel. Et comme dirait ce bon père couturier, les tâches modestes ne sont pas faites pour les médiocres. Et maintenant, au travail jusqu'au 30 juin. Après, c'est l'océan. Le 30 janvier 1955. Mon cher Bézard, je suis enchantée de vos assiettes. Elles sont très belles. Vous êtes un artiste. Vous avez un don pour la céramique. Mais faites attention, n'en faites pas 1000. Vous n'avez pas de commande. On ne vous paye qu'une fois la marchandise vendue. Ce n'est pas une sécurité, on ne vendra jamais 1000 assiettes. 1000 assiettes, ce qui est bien ne touche pas la foule. La foule aime le mauvais. Où trouverez-vous 1000 clients? On foutra vos assiettes dans un coin. On offrira des mochetés qui se vendront. Que vend-on, Mont-Saint-Michel, à Lourdes? Que vend-on actuellement à Ronchamp? Je vous supplie de prendre garde. Canet n'a pris aucun engagement. Bien sûr, il paiera ce qu'il aura vendu. Aucun éditeur n'a voulu risquer le livre de Winter parce qu'il était inconnu. Vous aurez pour acheteurs, à 2000 francs par exemple, des touristes, pas des pèlerins. Mais 1000 acheteurs, c'est énorme. Nom de Dieu, ayez un peu de mesure. Quand nous faisions l'Esprit Nouveau, nous tirions à 2000-2500 exemplaires. Et il en revenait du monde entier. Je vous aurais mis en garde. Qu'est-ce qui oblige à prendre le mort aux dents? Faites-en 100 ou 200. Et si ça marche, vous continuez. Il y a des pèlerinages à Ronchamp 2 fois par an. Et il y aura des touristes tous les jours, devant vous. Amitié, vôtre, Corbu. Paris, le 7 mars 1955. Mon cher Corbu, je reçois une lettre de reproche de M. Canet de Ronchamp. Je passe sur la question finance, puisque nous avons un accord, sauf que toutefois, M. Canet remet sur le tapis des questions bien réglées quant à certaines pièces ayant un défaut, mais très vendables, et pour lesquelles je consens un sacrifice hors de proportion. Ici, je copie textuellement un alinéa de la lettre de M. Canet. Les frais de transport et d'emballage sont relativement élevés. M. Canet oublie de mentionner que s'il fait l'avance du prix de transport, port dû, en fin de compte, c'est moi qui paie comme convenu. Et d'autant plus qu'il porte sur certaines pièces difficilement vendables. Ces pièces, dont la proportion augmente d'ailleurs avec chaque envoi, présentent des défauts. Taches dans les mailles, trous dans les mailles, bavures d'une couleur sur l'autre, etc., que les clients ne sont pas sans remarquer. Est-ce dû à un emballage défectueux? Là, c'est à pleurer. À un défaut de cuisson? À un mauvais émail? Nous nous bornons à vous l'indiquer afin que vous puissiez en rechercher les causes. Il nous paraît en effet qu'il doit être fort désagréable pour un artiste de voir mettre en vente sous sa signature des pièces qui ne sont pas parfaites. Aussi, nous les mettons de côté pour vous les montrer. Merci, M. Canet. Aussi, nous les mettons de côté pour vous les montrer à l'occasion et ne pas les présenter aux clients. C'est un peu fort de poire. Nous voudrions partager votre optimisme quant aux réactions de la clientèle au sujet du craquelage. Des émaux. Mais vous connaissez cette clientèle aussi bien que nous. Parbleu, si je les connais, les couillons. Vous savez qu'elle est très difficile. Tu parles. Et nous ne pouvons oublier qu'elle est l'élément payant et nécessaire. Bien sûr, pardi. Vous me demandiez où nous en sommes avec les USA et le Canada. Jusqu'à présent, nous n'avons absolument rien reçu. Et ils paraissent faire la sourde oreille à vos appels. Je ne répondrai pas à cette lettre tout de suite. Mais, M. Canet veut faire le critique d'art? Allons-y. J'envoie une lettre motivée à la commission d'art sacré de Besançon, qui jugera pour sa part. J'envoie une lettre motivée au père Coragnac, qui jugera ses pièces ici, pour sa part. Et j'écris une lettre à Le Corbusier, qui jugera pour sa part. J'ai reçu le blâme de M. Canet, juste avant le départ d'une 4e caisse que j'ai stoppée. Je veux un jugement sur un ensemble. C'est mon droit d'artiste, toute question d'argent mis à part. J'ai là un lot d'une 50aine d'assiettes. Ainsi, aux yeux de M. Canet, le 3e lot, celui que vous avez vu rue de Sèvres, est inférieur au premier et à la suite. Messieurs les artistes, jugez, je m'incline d'avance. Bonjour à Yvonne et cordialement à vous. À part cela, je tiens à votre disposition un chef-d'œuvre de Madame Canet mis en vente à Ronchamp. Bézard. Paris, le 13 mars 1955. Mon cher Bézard, reçu votre lettre du 7 mars. Vous vous emballez comme toujours. Ne commencez pas à polémiquer avec des gens qui sont tous épatants pour une fois et qui vous aiment bien. Attendez le jugement des cochons de payants. et vous verrez où gîte le bon goût et s'il court les rues. Si le renseignement peut vous intéresser, je peins depuis 40 années et je ne vends pour ainsi dire pas. Et il y a d'énormes expositions Le Corbusier qui parcourent le monde. Moi, j'estime votre céramique. Je vous répète encore, vous avez autour de Ronchamp les meilleurs amis du monde. Par conséquent, pas d'agitation de travers. Je pars pour les Indes mardi pour l'inauguration du palais de justice de Chandigarh et serai de retour à la fin du mois. Amicalement à vous, Le Corbusier. Paris, le 20 octobre 1955. Mon cher Corbu, j'ai accueilli hier Simon, le peintre du pavillon des temps nouveaux. Il me fait l'effet d'un brave type. En tout cas, il m'a acheté de la céramique pour lui, comme il dit. Nous avons projeté de travailler ensemble. Il a l'air drôlement débrouillard. C'est autre chose que Ronchamp. Il m'a appris aussi que vous partiez pour les Indes. Encore ? Vous êtes fou, Corbu. Aussi fou que moi, et ce n'est pas peu dire. Parce que je me sens glissé, exactement comme Van Gogh, dont le destin m'attend au carrefour. Je vais tenir jusqu'au dernier carat. J'ai un fichier d'élèves impressionnant, mais je les attends. J'ai des fidèles, quelques-uns, surtout quelques-unes. En passant, un détail touchant, ce matin, une de mes élèves, épouse d'un directeur d'usine, m'a apporté un perdreau prêt à rôtir. La bonne petite fille s'est rendue compte de ma vie de ruine. Cela console de tant de saloperies que l'on voit et subit quotidiennement. C'est dur et grand la vie d'artiste, mais bon Dieu, c'est tout de même trop dur. J'ai de belles peintures, Corbu, et si un jour je dois disparaître, quoique mon cœur me laisse tranquille en ce moment, je vous demande de ne pas laisser disperser mon œuvre écrite, picturale et céramique. Ma pauvre Suzanne est totalement perdue, affolée par sa carrière, par le pauvre orgueil d'arriéré. Vous êtes mon seul ami avec une petite fille de 52 ans qui me comprend et qui m'envoie un petit mot gentil de temps en temps. Bon voyage, Corbu. Bien des choses à Yvonne. Et pour moi, Mektoub. Bézard. 20 juillet 56. Roquebrune, Cap Martin. Chère Suzanne, je venais de recevoir le formulaire imprimé de l'assistance publique du 19, envoyé par erreur, quand votre télégramme est arrivé. Voyez comme les choses sont incertaines. Le docteur Indermeyer m'avait téléphoné la veille de mon départ, disant tout son espoir de voir Bézard s'en sortir gaillardement. Voilà Norbert parti sans s'en douter. Il s'est fort agité et remué dans sa vie. Il a fait quelque chose. C'est une force sensible, créatrice. Il avait un talent fondamental. Il l'a manifesté d'une manière absolument inattendue, subite et accidentelle dans la céramique et la peinture. Il avait aussi su imaginer, dans son domaine paysan, voyant des mises en ordre, apportant des réalités substantielles. À côté de cela, son caractère. Qui n'a pas le sien ? Vous avez tout de même eu, à son côté, le bénéfice d'une action créatrice, ouverture de portes sur des horizons. La vie m'a conduit à apprécier sans limite ni restriction les rares types qui font quelque chose. Ceux-là sont rares et comptent. Vous aussi, Suzanne, avec vos gosses de maternelle, vous créez chaque jour, vous autant qu'eux-mêmes. Leurs dessins aux gosses sont faits au travers de vous. Et ils sont solides et rudes, et encore une fois, aussi créatifs. Que l'on meure, c'est la chose la plus assurée de la vie. Ce Norbert, en définitive, a fait ce qu'il a voulu. Il l'avait demandé, il me l'avait dit, conserver ses peaux et ses peintures afin qu'ils ne disparaissent pas dans le coup de balai des suites d'un décès. À mon avis, il serait bien que vous ayez tout ça encore chez vous. À mon retour, je voudrais y jeter un coup d'œil et vous dire ce qu'en définitive j'en pense. Et je vous conseillerai, alors, ainsi que ses parents. Je vous le propose, fort de sa propre recommandation faite à moi-même. Je vous laisse juge d'apprécier si vous devez ou non communiquer le contenu de cette lettre à ses frères, à ses enfants. En tout cas, Suzanne, merci pour tout ce que vous avez fait et été pour Bézard. Croyez à mes sentiments respectueusement amicaux. Vôtre, Le Corbusier. Je crois qu'il serait bien et juste de réserver pour le docteur Indermeyer, enfant malade, et pour le chirurgien qui a opéré, un plat de Norbert pour chacun d'eux. D'autre part, je pourrais essayer, et je crois la chose possible, de faire accepter par mon ami Georges-Henri Rivière, directeur du musée des traditions populaires au Palais de Chaillot, un groupe de céramique et peinture de Norbert qui entrerait au musée et consacrerait sa mémoire. Ceci à mon retour. Faites attention aux requins des galeries de peinture dont certains sont voraces et cruels. Ne faites rien sans m'en parler. Je connais le milieu. Eh bien, maintenant, je crois que vous allez pouvoir admirer les œuvres de Bézard et puis l'affaire, vous allez pouvoir voir aussi la maquette du centre coopératif dont on a parlé, de la ferme radieuse, tout ça va vous parler différemment. Et en observant la maquette, d'ailleurs, du centre coopératif, vous pourrez entendre la description qui est la suite du manuscrit que j'ai commencé à vous lire. Et qui vous guidera dans la visite guidée du centre coopératif. Voilà. Bonne visite.
Éventuellement, c'est pour acheter l'ouvrage qu'on a fait, avec ce qu'on en a fait 1000, en fait pas. Il y a des extraits de lettres, pas tous, d'autres. Et voilà. Donc, plutôt l'acheter chez nous que si vous le trouvez dans.
Voilà qui est direct.